Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
Sud Radio, il est 8h46, c'est l'heure de démarrer les grands débats du matin avec Françoise Degoye et Elisabeth Lévy. Si vous voulez réagir, témoigner, ça se passe au 0826 300 300 et sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Bah, bonjour, oui, vous mesdames. Choisissez un petit peu le sujet au dont choix. Vous voulez parler, au choix. Alors, je propose,
au choix, le Covid, la bûche.
Voilà, exactement. Elisabeth Lévy est ravie de parler du
Noël
Covid.
Noël au micro, pas qu'au balcon.
Ben oh, voilà. Pas mal. Oh, François.
Pas mal du tout.
Alors,
on va la garder, celle-ci.
Vous avez vu ce qui tourne sur Twitter, là, je l'ai pas... J'aurais voulu me l'approprier, mais elle est un peu moche. C'est Noël au Micron, Pâques sans Macron.
Ça faudra attendre un petit peu pour voir si ça marche ou pas.
Voilà, surtout, je suis pas sûre. Est-ce que Pâques tombe après le deuxième tour de la présidentielle? Je crois que la blague, c'est ça. Pâques sans Macron, Noël au Micron, bref.
Bon, en tout cas, Elisabeth Lévy, hein, Françoise Degoye, qui tout à l'heure, pour son édito politique, expliquait que le gouvernement en faisait beaucoup trop en ce moment avec le variant Omicron. Est-ce que vous partagez cet avis de dramatisation un petit peu autour de ce variant-là en particulier?
Vous savez que ce Omicron, alors moi je dis Omicron, hein, à la française, et ce Omicron a une vertu. Je veux dire, il nous réconcilie.
Oui, c'est vrai. 15 jours que nous sommes d'accord.
Même quand on s'engueule, on est réconcilié. Hein, oui. On s'engueule avec amitié. Mais blague à part, si vous voulez, vous avez tous remarqué que subrepticement, le gouvernement a changé de critère. L'an dernier, on était sur les hospitalisations, ce qui paraissait effectivement logique. Il faut qu'on puisse soigner tous les gens qui ont besoin d'être soignés à l'hôpital. Et puis on est passé du critère des hospitalisations au critère des contaminations. Alors pardon, je fais un peu de pub pour mon journal, mais dans Le Prochain Causeur, j'ai fait une longue interview de Martin Blachier.
Très bien.
Et si vous voulez, ce qu'il me dit me semble marrant. Alors moi je ne suis pas médecin, donc je répète forcément ce que disent des médecins. Ce qu'il dit me semble tout de même assez logique. Il dit, de toute façon, on a compris, il me dit ça, on le sait depuis l'été 2021, depuis qu'on a les résultats israéliens, on sait désormais que le vaccin, on pouvait le penser au départ, mais que ce vaccin n'arrête pas la circulation du virus.
Ouais.
Ça
ne
veut pas dire qu'il ne sert à rien, il arrête les formes graves.
C'est ça.
Enfin, il arrête. Il diminue fortement le risque d'avoir une forme grave. Donc, que dit-il? Il dit donc, il faut vacciner 100% des gens qui risquent d'avoir des formes graves. Et ce qui m'a étonné, en plus de ce qu'il me disait, je disais, mais je comprends pas aujourd'hui, on me dit qu'il y a 10% de ces gens qui sont pas vaccinés. Hein. C'est ça, François?
Sur les personnes éligibles au vaccin, on a 10% qui sont pas vaccinés.
Non, sur les personnes âgées et à risque.
Ah, c'est énorme. Ça fait 2-3 millions de gens.
Voilà.
Eh bien, il suffit de ces 10%-là, de non-vaccinés dans ces gens-là, si vous voulez, pour que, dans le fond, on ait un risque, qu'on ait une pression sur les réa. Cela dit, vas-y, Françoise, pardon, mais il me semble que cette pression, elle existe, mais qu'on n'est pas du tout dans le schéma de la première vague.
Je faisais le calcul, on est autour de pas loin de 70% sur les lits en réanimation.
Donc on crie avant... Ah bon? Parce que donc on a moins de lits, alors, parce qu'il
non,
me semble...
Non, on n'est pas en 70%.
Ah bah, je faisais des calculs là-dessus.
On crie avant d'avoir mal.
Oui, je suis d'accord. Écoutez, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. On a les premières études qui arrivent, qui sont sérieuses, je le redis, c'est pas complotiste.fr, c'est vraiment les études sérieuses.
Parce que là, on a aussi deux variants qui jouent, on a la fin du Delta, on a l'Omicron.
On ne peut pas passer une politique de fin, de suppression des libertés publiques, je suis désolée de vous le dire, le Conseil constitutionnel. Non, mais écoutez, au prétexte que nous avons, vous entendez le discours politique depuis 15 jours sur Omicron.
Il a changé sur les non-vaccinés aussi, sur comment on parle des non-vaccinés.
Ça sert à rien. À quoi ça sert d'être aussi agressif avec les non-vaccinés? Vous avez des antivax, ça représente 1 million de gens. On le sait, ceux-là, ils pensent que la Terre est plate, qu'il y a la 5G, que c'est un complot.
Il y a 1 million de gens qui pensent que la Terre est plate dans notre pays.
Je t'assure, 800 000, c'est hyper effrayant.
Ça m'inquiète.
Ceux-là, tu les convaincras jamais. T'as 5 millions, 4 millions de gens que tu peux ramener d'ailleurs avec le nouveau vaccin d'ailleurs qui est pas ARN messager, le Novavax qui vient d'être validé, qui est un virus désactivé qui ressemble plus au vaccin classique de la grippe, etc. Les gens vont y aller, mais alors cette folie, moi je le dis, on a je vais vite, mais on a les résultats qui arrivent sur Omicron, on a 5 fois moins de réanimation en Afrique du Sud à cause de cet Omicron, 2500 pour le Delta, 530 pour l'Afrique du Sud pour le variant Omicron. On nous a parlé du Danemark, mais enfin Danemark, 26 000 cas, 47 hospitalisations, 4 simplement en réa. Moi, je pense
mais alors
que...
attendez, excusez-moi, mais est-ce que cette idée, donc je reprends l'idée de Martin Blachier, il dit il faut foutre la paix, il faut foutre la paix aux jeunes, il faut les laisser se contaminer et acquérir une immunité naturelle parce qu'elle est toujours meilleure que celle du vaccin. Voilà, donc foutez la paix aux jeunes qui n'ont pas de risque d'aller en réa, laissez-les vivre, laissez-les aller en boîte.
Ça aurait été ça, la vraie idée.
Obliger, il dit, vaccination obligatoire
pour les plus de 65 ans, en vrai.
Pour les plus de 65 ans.
Voilà. Et moi, je pense que ça aurait été... Tu vois, eh bien, moi, je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas toujours été d'accord avec Blachier, mais je pense que, étant donné la façon dont nous sommes en train de foutre des coups de canif dans nos libertés publiques, excusez-moi, parce que je trouve ça complètement dingue, la ségrégation, la rupture d'égalité...
Mais
non, mais...
Il y a rupture d'égalité si vous obligez des gens, parce que c'est au nom de l'égalitarisme que la solution d'une obligation différenciée a été rejetée. Le Conseil constitue immédiatement et monté au rideau.
Oui, mais la proportionnalité, là, de priver 5 millions de gens à partir du 15 janvier, où elle est la proportionnalité ?
Mais vous me connaissez,
François. Donc moi, je pense qu'on aurait peut-être pu aller vers une vaccination obligatoire pour les gens qui sont véritablement concernés, et plus le vaccin pour tous ceux qui veulent être vaccinés.
Oui, bien sûr.
La liberté de vaccination pour tout le monde, une obligation vaccinale. Vous vous rendez compte qu'on va foutre... Écoutez, moi, j'ai eu ma troisième dose. Je suis resté 24 heures d'équerre, avec le Pfizer. Je l'ai eu, vraiment... J'ai jamais été aussi malade. C'est pas grave, ça veut dire que, comme me dit ma pharmacienne...
Vous avez le coup
système,
de booster.
Ça, pour avoir le booster. Je me dis, mais sur un homme de 5 ans, par exemple, est-ce que c'est bien normal? Est-ce que c'est bien naturel
vous avez raison de parler des enfants, Françoise, et peut-être vous avez... Parce que je vois que vous avez bien bossé sur le sujet, donc...
Non, mais vous aussi...
Non, moi, je connais... Moi, j'ai juste interviewé Martin Blachier, mais j'avoue que je passe pas ma vie dans les chiffres. Mais sur les enfants, d'après ce qu'on entend, si vous voulez, c'est de plus en plus grave. Il n'y a pas que... Pardon. Il n'y a pas que Blachier, il y a le professeur Cohen qui est...
Il est contre, il est absolument... Edwige Gentier est contre, par exemple.
Non, mais on est en train, et ils disent que c'est assez grave. Alors, je ne sais pas quel est votre...
Mais pourquoi... Alors à ce moment-là, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Oui. Pourquoi le gouvernement, pourquoi l'exécutif, pourquoi Emmanuel Macron fait ce choix-là
D'abord, il panique.
C'est de la peur, c'est de la panique.
Il panique. Et puis, c'est pour. Il a des médecins autour de lui qui doivent lui dire oui, il faut faire ceci. Vas-y, Françoise.
Vas-y, toi.
Non, et puis, je pense qu'il faut montrer qu'on fait quelque chose. Ouais. Donc, si vous voulez.
Partir dans la vaccination tous azimuts égale ne pas réfléchir à l'hôpital, ne pas proposer une vision d'hôpital, ne pas proposer des moyens pour les hôpitaux. On recommence parce que là, vous avez vu le discours faisons vacciner les 5-11 ans. Ça, c'est encore. Vous allez faire vacciner les enfants pour éviter que ces méchants non vaccinés nous contaminent et fassent craquer l'hôpital. Parce qu'à les entendre, si vous voulez, les non vaccinés sont responsables de tout, de la reprise de l'épidémie. Moi, j'entends ce discours, je trouve ça effrayant. J'écoutais Joe Biden. Discours américain, libéral, les libertés, c'était pas ça. Il dit, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. 60% de vaccinés aux États-Unis, 100 millions de contaminés, mais on ne doit pas...
C'est un peu de la faute de leur discours sur le vaccin, parce que... et c'est qu'en partie de leur faute, puisque effectivement, au départ, on pouvait espérer que le vaccin serait plus efficace contre la circulation.
C'était compliqué de le savoir avant.
Bon, on ne le savait pas, mais je vous rappelle, si vous voulez, que... En fait, le problème, c'est qu'une fois que vous avez dit quelque chose, vous ne voulez pas dire on s'est trompé et puis on ne savait pas.
Et pourquoi on ne peut pas dire à un moment justement, on s'est trompé? Parce que la défiance vis-à-vis du politique et vis-à-vis du gouvernement, ça participe aussi de ça.
Alors, je vous explique juste que Emmanuel Macron...
Parce que vous n'avez pas joué au bingo de Noël.
Emmanuel Macron, excellent. excellente chronique d'Elisabeth Lévy. Allez la voir en podcast.
Alors, vous la retrouvez.
Qu'est-ce qu'on a rigolé.
Lévy sans interdit en podcast, exactement, sur
Sudradio.fr. Vraiment la meilleure de l'année. Je sais que ça ne lui plaira pas, mais elle est tellement drôle, cette chronique. Bon, je voulais dire, par rapport à ça, écoutez, Emmanuel Macron a été le premier à se foutre officiellement de la tête de Donald Trump quand Donald Trump dit nous aurons un vaccin avant 6 mois. Vous en souvenez? Emmanuel Macron est le premier à dire à ricaner, tu parles, c'est encore la folie des trumpistes, etc. Okay,
et nous, on va reconstruire Notre-Dame en plus belle.
Voilà, et il ricane. Il revient là-dessus après, six mois après, le vaccin, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Le problème, il est là, c'est-à-dire cette façon péremptoire d'affirmer, de ne jamais revenir sur ce que nous avons affirmé, de ne pas même mettre un petit mot d'excuse. Quand il balance le pass vaccinal le 12 juillet, Emmanuel Macron, c'est le même qui, en avril, devant toute la presse locale, le pass sanitaire, c'est le même qui dit « jamais il n'y aura de pass sanitaire dans notre pays ». Et il annonce ça sans même faire un mot d'excuse en disant écoutez, voilà, la maladie progresse.
Kundera écrit de très belles choses sur ces gens qui changent d'avis sans le dire dans les testaments trahis. C'est-à-dire, changer d'avis, c'est pas grave.
On a le droit.
Ce qui est grave, c'est de changer d'avis en faisant comme si on n'avait jamais changé.
Oui, ça, je suis
d'accord.
Parce que
c'est là où on prend les gens pour des cons, quoi. Voilà. Passez-moi l'expression, mais.
Je vous la passe.
On devrait faire en guirlande de Noël, je vous jure, les propos d'Emmanuel Macron sur le vaccin de Trump. Mais vraiment, c'était complètement dingue. C'est oui, de toute façon, ça vient de Trump. Après, les propos d'Emmanuel Macron sur le vaccin tout court, les propos de Jean Castex sur le vaccin, la somme de propos, et j'adore cette idée de, en faisant comme si on les avait jamais tenus, c'est vraiment fatigant, enfin, ça nous épuise au niveau de la psyché, je pense.
Et puis leurs airs dramatiques, ça suffit. Moi, hier, je mettais pas le son parce que je travaillais, mais je voyais la tête de Gabriel Attal, j'avais envie de me flinguer.
Bon, non, c'est pas le moment.
Et pourtant Gabriel Attal est tout à fait estimable.
Mais elle a raison. Vous imaginez que Martin Hirsch est capable de dire que Omicron est un sniper qui tire sur tout ce qui... Non, mais je le redis pour les gens qui n'écoutaient pas. Moi, hier,
je pense que même une fois, quand on l'entend une fois, c'est vrai que ce sont des termes, le choix des termes.
Mais vous rendez compte un petit peu une sorte de stratégie de la peur, donc qui est une tendance naturelle des êtres humains, mais là, qui est une véritable stratégie politique, parce que je vous rappelle quand même que pendant qu'on fait de l'Omicron, on ne parle pas du reste. Donc je veux bien être
naïve. Merci beaucoup. Merci Françoise de Gouin, déjà. Bonne fête.
Elle reste.
Alors Elisabeth Lévy, reste avec nous, et puis avec vous au 0826 300 300 pour vos questions, vos réactions sur l'actualité. Et puis Françoise de Gouin, on vous retrouve à la rentrée.
À la police, chercher les cadeaux.
Exactement. Et bien justement, les cadeaux, on en parle.
Il y en a un à l'instant. Christiane de Saint-Jean-de-Rive, bonjour.
Bonjour.
Et félicitations. Bonjour.
Et bravo.
Merci.
Vous avez gagné un beau cadeau avec Sud Radio et on va le découvrir.
Alors un beau cadeau, on va voir. On va voir ce que c'est.
Ils sont tous beaux, Benjamin, tous les cadeaux. On va découvrir tout de suite.
Joyeux Noël. Voici votre cadeau Sud Radio.
Ah, Christiane, vous allez vous chouchouter avec la Maison du Savon de Marseille. Vous gagnez un coffret lait d'ânesse avec un savon, un lait pour le corps et une crème pour les mains. Et vous pouvez le voir sur maisondusavondemarseille.fr. C'est bon de se chouchouter.
Et on vous l'envoie rapidement parce que sinon, Françoise et Elisabeth vont le piquer.
Ah
voilà.
Oui.
Hein.
Merci.
Je vous le garde dans un coin.
Bravo.
Très
bonne fête à vous. Et merci d'être fidèle à Sud Radio. 8h59. On revient dans un instant avec vous. 0826 300 300 avec Elisabeth Lévy pour nos grands débats du matin. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
9h07 sur Sud Radio, dans un petit quart d'heure, on parlera du principe du contrôle d'identité pour vérifier le pass vaccinal par les restaurateurs ou les patrons de bar qui sera intégré dans le projet de loi sur le pass vaccinal.
Peut-être, en tout cas, le gouvernement le souhaite, effectivement, et on verra du côté juridique comment c'est possible, est-ce que c'est possible. On sera avec un avocat, en l'occurrence, qui sera avec nous, bien sûr, dans quelques instants, Marie-Line, c'est Jérôme Gavaudan qui sera avec nous, puis on verra aussi, on sera avec un restaurateur qui nous parlera aussi de comment on se prépare un peu à ça, parce que c'est un petit peu la surprise. Mais on continue avec Elisabeth Lévy. Alors, vous faites la moue là-dessus. Ça vous fait réagir d'ailleurs cette possibilité-là de contrôler nos identités par les professionnels?
Ça commence à bien faire, si vous voulez, de transformer un certain nombre de gens en flics, en quelque sorte. Enfin, avec tout l'amitié et l'estime que j'ai pour les policiers, si vous voulez, c'est... On ne peut pas pas demander à tout le monde d'être dans une... Si vous voulez, on est dans une société où tout le monde va se prendre pour le gardien de son frère. Alors, il faut plus dire qu'il y a des gens, si vous voulez, qui ont une sorte d'affect de contrôle. Alors, moi, je me rappelle, je vous l'ai déjà raconté tellement ça m'avait scotché, je crois, un contrôleur qui était venu me voir. J'avais acheté quelques barres chocolatées, parce que j'aime le chocolat, et puis parce que ça permettait un peu d'enlever le masque. Je vous précise qu'on était quatre dans le wagon. Hein.
Ouais.
Et il vient me voir, il me dit, et je lui montre ma barre chocolatée, il me dit, vous devez remettre votre masque entre chaque bouchée.
Non, oui, d'accord.
Donc, si vous voulez, il y a des gens, il y a des gens à qui, dès que vous donnez du pouvoir, si vous voulez, il y a des petits chefs dans tous les pays.
Ça a toujours été le cas, ouais.
Et donc, c'est une très mauvaise idée. Puis pour les restaurateurs qui en ont déjà vraiment ras-le-bol du contrôle du pass vaccinal, maintenant, ils vont contrôler l'identité des gens. Mmh. En plus, vous pouvez frauder un pass, vous pouvez, c'est encore plus facile de vous balader avec la carte d'identité de X, Y ou Z. Enfin c'est...
Bon, en tout cas, ça fait réagir au standard de Sud Radio. Vous nous appelez 0826-300-300 avec un auditeur qui est avec
on
nous.
On a Marine. Laurent de Montpellier qui nous a appelé au 0826-300-300. Bonjour Laurent, bienvenue.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Bonjour Laurent, je crois que vous vouliez réagir sur ce sujet Laurent. Justement.
Eh bien oui, parce que je trouve ça un peu ridicule. Quand vous pensez que pour le contrôle d'identité pour aller au restaurant, vous vous rendez compte, on n'est pas capable de contrôler l'identité des gens pour la carte vitale. Qu'est-ce qu'on va aller contrôler maintenant pour aller manger un plat de pâtes? Enfin, tout ça est ridicule quand même. Bon alors, il est vrai qu'on se fait contrôler quand même quand vous laissez un colis, quand vous allez retirer un colis dans un point relais, on vous demande votre carte nationale, identité, enfin, pour ne pas que vous puissiez prendre le colis d'un autre, ça d'accord. Mais au restaurant, vous n'allez pas prendre la gamelle de l'autre, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, là je crois qu'on est parti dans des... Dans... Qui va contrôler qui? Non, je vais vous dire, on n'est pas capable de contrôler la carte pour la sécurité sociale, la carte vitale, alors que c'est une vieille affaire où il y a de l'escroquerie comme on n'en a jamais vu. Et là, parce qu'il y a quelques escrocs qui veulent aller au restaurant sans être vaccinés, laissons-les aller. Nous le sommes. Moi, je le suis vacciné. Si quelqu'un qui ne l'est pas à côté de moi vient, ben, ça ne me dérange pas. Voilà.
Après, il y a la question aussi de savoir, c'est peut-être plus aux policiers, aux gendarmes, de vérifier cela, notamment la carte d'identité, éventuellement, s'il faut
mais
la
vérifier. Est-ce qu'ils ont autre chose à faire?
Ouais, après, il y a la question, est-ce qu'ils ont autre chose
est-ce
à faire
que,
aussi,
est-ce
ou pas,
que les policiers, les policiers moi, je plus sois ce qu'a dit... C'est Laurent, c'est ça?
Laurent.
Exactement.
Laurent, qui est fort sage. Non, mais j'approuve tout à fait. Mais si vous voulez, est-ce que vraiment les policiers, les gendarmes dans notre pays où on apprend tous les jours que des policiers sont attaqués, que ceci, cela, qu'il y a des rodéos, qu'il y a des habitants qui se font enquiquiner, et donc le travail des policiers et des gendarmes va être de contrôler l'identité pour voir si elle correspond au pass vaccinal, c'est-à-dire que le délit le plus grave dans notre pays où on parle de violence tout le temps, ça va être d'avoir un peu truandé là-dessus. Non mais, il faut, comme disait le président Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français.
Voilà.
Et Laurent, les restaurateurs aussi.
Laurent, pour ce réveillon de Noël, vous avez prévu quoi vous-même? J'en profite, vu que vous êtes là.
Oui, eh ben, nous avons prévu d'être un peu en famille, nous serons une petite dizaine. Mais pour l'anecdote, dans une famille que je connais, proche de moi, les parents demandent le pass vaccinal aux enfants.
Vous vous non
vous... Je, c'est vrai, c'est exact.
Ils demandent le schéma vaccinal complet.
Le pass. Est-ce qu'ils contrôlent l'identité?
Ils contrôlent l'identité. Le QR code aussi ou pas?
Ah non, ça je sais pas, mais
et ils sont déshérités sinon.
Que je meurs à l'instant si je mens, ils demandent
dingue,
le pass sanitaire aux enfants pour voir s'ils ne sont pas portés ou un contrôle
surtout que
donné, enfin quelque chose quoi.
Un test.
Un test PCR.
Après si tout le monde si au sein de la famille tout le monde est d'accord et tout le monde a envie de ça, à la limite pourquoi pas.
Ouais, mais ça donne pas envie d'aller passer le réveillon chez eux. Moi je préfère aller chez Laurent. Ça a l'air plus sympa. Chez Laurent.
OK. Bon en tout cas, Laurent, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur
merci
Sud Radio 0826-300-300. Et bien, joyeux Noël. Eh bien oui,
joyeux
merci
Noël.
Beaucoup. Elisabeth Lévy, merci aussi à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On vous retrouve, vous, demain, c'est ça? Vous serez avec nous ?
Ah bah oui, bien sûr, je suis encore avec vous demain.
Notre cadeau de Noël.
Et après, eh bien, je vais préparer, je vais préparer mon bingo de Noël. Oui.
Alors ça, alors si vous avez raté ça, la chronique d'Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit, allez-y hein, en podcast sur sudradio.fr, sur le bingo, super bingo des macronistes. Voilà, comment répondre à son tonton ou sa tata
qui est anti-Macron. Mais oui, pardon.
On va vous la remettre, la chronique aussi. Merci à vous, Elisabeth.
Merci
et à
tous.
Demain. Allez, 9h13 sur Sud Radio. Dans un instant, on en parlait justement à l'instant, cette question du principe du contrôle d'identité pour par les restaurateurs, les patrons de bar, dans ce qui sera le prochain projet de loi sur le pass vaccinal. On en parle alors du côté juridique, voire du côté des avocats, un petit peu justement, quelles sont les réactions. Et puis aussi du côté des restaurateurs, est-ce qu'ils en ont marre ou pas, justement, vis-à-vis de cette possible nouvelle mesure à assumer. On voit ça dans un instant.
A tout de suite, 9h13 sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
9h16, vous êtes bien sur Sud Radio, on vous accueille avec plaisir pour la suite de nos grands débats du matin. Et à cause des passes vaccinaux frauduleux qui circulent, le principe de contrôle d'identité par les restaurateurs ou les patrons de bar devrait être intégré dans le projet de loi sur le pass vaccinal. Est-ce que c'est gérable et même possible pour les professionnels? Pour en parler, notre premier invité, Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Jérôme Gavaudan et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, petit rappel, on va revenir un peu en arrière. Hein, l'été dernier, l'application Tous Anti-Covid Vérif qui prévoyait que les commerçants vérifient l'identité des clients correspondant à leur passe sanitaire. Finalement, Jean Castex avait décidé de revenir en arrière, de faire machine arrière sur ce sujet-là, laissant cette tâche aux forces de l'ordre. Là, Jérôme Gavaudan, par rapport à ce qu'annonçait Olivier Véran, comment est-ce que ça peut s'instaurer dans un cadre légal, cette demande de, voilà, pour les patrons de bar, pour les restaurateurs, de contrôler l'identité sur ce futur passe vaccinal?
Alors, c'est toujours pareil. La loi peut toujours faire beaucoup de choses. La question de savoir si elle sera déclarée conforme à la Constitution, si le Conseil constitutionnel est saisi. La question qui se pose quand même, c'est que c'est toujours une perspective. En République, si vous voulez, le contrôle d'identité, c'est-à-dire la force de police, la force que le peuple consent à donner au service de police, elle est sous la responsabilité des procureurs de la République en matière judiciaire et puis des préfets en matière administrative. Et donc, vous savez que les choses sont très encadrées. On ne peut pas demander, effectivement, dans n'importe quelle condition, la carte d'identité ou le passeport d'un individu. Et donc, confier cette mission, qui est plus d'une mission de service public, mais une mission régalienne de l'État, à un particulier, que ce soit un restaurateur ou un agent de contrôle, ça pose une vraie question dans une démocratie par rapport au principe, j'ai envie de dire, au principe républicain. À l'heure où d'ailleurs, très curieusement, on travaille, notamment le Conseil national des barreaux et les avocats, mais sans difficulté particulière, à instaurer, lorsqu'il y a des contrôles d'identité par les services de police, un récépissé pour éviter les contrôles faciès. Donc dans une République qui évolue, on demande peut-être, même si les policiers s'y opposent, on peut les comprendre, à ce qu'ils délivrent, lorsqu'ils font un contrôle d'identité dans la rue, un récépissé pour qu'on vérifie le nombre de contrôles qui se sont exercés contre une personne, on viendrait ici bouleverser finalement une certitude juridique, à savoir que un particulier, un restaurateur, pourrait demander une pièce d'identité, ce qui est assez inquiétant, j'ai envie de dire.
Juste pour être clair, ça veut dire que à l'heure actuelle, un particulier ne peut pas demander sa carte d'identité à quelqu'un, un client en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il faut forcément passer par une loi, là, de toute façon.
Ah oui, toute façon, il le faudrait. Il y a des exceptions, si vous voulez. Par exemple, le droit européen autorise, quand vous prenez l'avion, à ce que, lorsque vous embarquez, il y a un contrôle entre d'identité. Mais si vous voulez, c'est pas un contrôle d'identité, c'est une vérification entre le billet, effectivement, et la carte d'identité. Là, on est sur autre chose.
Comme on avait notre auditeur aussi qui nous disait tout à l'heure, qui nous avait appelé sur Sud Radio 0826-300-300, il disait, quand on récupère un colis, on monte sa carte d'identité, notamment, par exemple.
Exactement. Tandis que là, on va sur au-delà, on va sur un laissez-passer qui, malgré tout, le pass sanitaire ou le pass vaccinal, doublé désormais d'un contrôle d'identité. Et puis surtout, ça pose la question de la sanction. Que fait le restaurateur, effectivement, lorsqu'il constate une anomalie? Est-ce qu'il est juge de l'anomalie? Est-ce qu'il doit en référer à qui? À un procureur de la République? À un préfet? De la même manière, alors ça semble être écarté dans le projet de loi, que le pass sanitaire ou le pass vaccinal à l'entrée dans un lieu de travail pose énormément de difficultés. Ça serait un bouleversement que de permettre à l'employeur ou contraindre l'employeur, en dehors de tout accord collectif, en dehors de toute discussion ou négociation collective, de venir solliciter des éléments liés à l'état de santé d'une part et ensuite à l'identité du salarié, parce que finalement, pourquoi pas demander au salarié de justifier aussi. Et lorsqu'on laisse, c'est une charge qu'on met. Mais vous savez que quand on laisse des pouvoirs à des gens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas contrôlés et qui n'ont pas l'autorité de la puissance publique pour les exercer, eh bien souvent, ils les exercent. Et quand ils les exercent manifestement toujours au détriment des libertés individuelles et de la personne. En tout cas, c'est un risque grave.
Vous avez parlé notamment de la question des sanctions. Ça, c'est un vaste sujet qui est d'ailleurs pas beaucoup développé jusqu'à présent par rapport à l'annonce d'Olivier Véran. C'est quoi les options sur la table aujourd'hui par rapport à cette question-là? Et est-ce qu'on peut envisager justement une réponse qui convienne au niveau juridique là-dessus, hein?
Juridiquement, on n'en voit pas. Ça voudrait dire qu'un contrôle de police viendrait vérifier si, dans un restaurant, le pass sanitaire a été vérifié et qu'il y a concordance entre les identités. Enfin, ça veut dire descendre de police pour vérifier si les personnes qui sont dans un restaurant ont leur identité, leur pass sanitaire, et que cette identité a été vérifiée par le restaurateur. Pourquoi? Pour lui dire, vous avez mal regardé, vous êtes trompé sur la photo. Je veux dire, il y a alors, il faut être responsable, hein. Je dis les choses juridiquement. Je veux dire, pour ma part, je suis vacciné. Je pense qu'il faut faire très attention. Je pense qu'il faut être responsable. C'est pas le sujet. Moi, mon sujet, il est les libertés individuelles et fondamentales. Oui. Le fait que l'État, finalement, finit par renoncer aux prérogatives de puissance publique et que petit à petit, chapelet de décisions par chapelet de décisions, ben finalement, nos droits se restreignent et les contrôles, les autocontrôles de la société, c'est quelque chose de très négatif. Parce que sinon, on va passer son temps à se réclamer des passes sanitaires, des passes vaccinaux et puis aussi les cartes d'identité. Parce que finalement, quand je viens vous voir, ben, je vais vous demander votre passe, je vais vous demander votre carte d'identité et par exemple, ce que j'ai déjà fait, pardon, hein, et pour dire la folie de ce genre de choses sur le plan juridique, c'est-à-dire que moi, dans un restaurant, quand on me demande le pass sanitaire, eh ben, je spontanément un peu, parce que je suis, j'ai envie de dire taquin, je demande à la personne, mais vous, est-ce que vous avez le vôtre au restaurateur? Parce que finalement, on s'autoprotège. Et est-ce que maintenant, je vais lui demander, est-ce que vous pouvez me donner votre carte d'identité pour savoir si effectivement le pass sanitaire que vous me présentez? Et donc, on voit bien que c'est un effet boule de neige. On comprend la volonté de lutter contre la pandémie, contre la maladie, on comprend tout ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut pas confondre des choses et que la pente devient juridiquement dangereuse et, je pense, inconstitutionnelle.
Il y a des questions aussi qui se posent sur cette carte d'identité, sur ce contrôle de carte d'identité. C'est que sur notre carte d'identité, on a nos adresses actuelles aussi. Oui, Marilyn. Ça, quand on montre son adresse justement à un restaurateur, à un serveur, je pense notamment quand on est une femme, jeune femme, ça peut être une préoccupation aussi.
Un vrai risque, oui.
Mais bien sûr, et d'ailleurs des syndicats de police, moi j'étais à la REF, c'est-à-dire l'organisation du MEDEF aux universités d'été, où il y avait une syndicaliste policière qui disait qu'effectivement c'était tant mieux, notamment pour des métiers à risque, et curieusement elle parlait des services de police, elle disait mais moi, si on me je suis connu, suis syndicaliste policière, eh ben on va connaître mon adresse et finalement je ne suis pas en sécurité. Mais ce qui est valable pour un policier est valable pour un journaliste, est valable pour un avocat, et valable pour un citoyen lambda qui n'a pas forcément à savoir ou à donner non seulement son état de santé. Ça repose quand même la question du nombre de vaccinations. Moi, à nouveau, sur mon pass sanitaire, mais désormais j'ai 2/2, donc j'ai un nouveau pass sanitaire qui montre que j'ai eu la maladie il y a un an, puisque j'ai mes 2 doses de plus et j'ai pas mes 3 doses. Et maintenant, on va me demander ma carte d'identité où que j'aille. J'ai une anecdote, j'avais un ami au tout début, le premier contrôle chez le restaurateur, vous savez, on écrivait sur un registre, on a déjà oublié ça.
Oui,
on passe de ça. Et bien, j'avais un ami, vous savez ce qu'il disait? Il disait, je m'appelle Emmanuel Macron, il donnait le numéro de l'Élysée. Et le restaurateur, il voyait bien que c'était pas Emmanuel Macron. Et là, ça avait un effet pédagogique. Mais désormais, vous voyez, petit à petit, sur la question des droits, du contrôle, des libertés, de la liberté d'aller et de venir, c'est important. Un mot sur la question constitutionnelle. Peut-être la loi serait déclarée constitutionnelle, parce que c'est la problématique de la proportionnalité. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler, il faut dire aux Français quand même que le droit constitutionnel prévoit aussi, comme à valeur constitutionnelle, le droit à la santé pour tous. C'est-à-dire c'est ces équilibres, liberté d'aller et de venir, mais aussi, garantie par la Constitution, le droit à la santé. Et donc, le Conseil d'État, sur la partie ordonnance, et le Conseil constitutionnel, fait œuvre de jurisprudence en trouvant les équilibres, en disant l'équilibre est trouvé ou l'équilibre n'est pas trouvé. Mais le principe constitutionnel, à la valeur constitutionnelle de droit à la santé, existe. Il ne faut pas le nier, il faut qu'on le sache.
Jérôme Gavaudan, vous restez avec nous. On va passer au standard avant de recevoir Thierry Dogneau, président de l'UMI de l'Aude, qui sera avec nous dans un instant. On est au standard 0826 300.
On a Diane de Perpignan qui voulait justement réagir. Bonjour Diane,
bonjour,
bienvenue.
Diane.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour, bienvenue.
Oui, je voulais réagir en disant que dans la rue, on interdit pas, c'est le monsieur qui l'a dit et que j'allais le dire aussi, dans la rue, quand on a un contrôle, il y a eu des cris il y a 2 ans, hein, c'était des cris, tout le monde du politique criait, c'était pas normal, et ça pour demander les cardiaques antiques. Même aux faciès, même aux gens, personne ne voulait la présenter. Et là, il y en a plein qui vont vouloir aller au restaurant et présenter une carte d'identité. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais...
Ah, on a perdu Diane, alors... Ah oui, alors,
Je vais au restaurant. Ouais. Je peux vous dire que si je vais au restaurant, je mets vaccin, je donnerai mon passe, mais je ne donnerai jamais ma carte d'identité. Je le refuserai de donner ma carte d'identité. C'est une dérive qui est en train de devenir... Ils sont en train de tester pour voir jusqu'où ils vont pouvoir aller de nous enlever nos droits. Petit à petit, ils le disaient et puis ils ne le font pas.
Cette société du contrôle.
Ça revient. Voilà, ça revient. Ils ne le font pas, mais ça revient. À la longue, ils nous ont à l'usure. Ils sont en train de nous avoir à l'usure. Ils nous enlevent tous nos petits quotidiens. On est en train de tout changer. Moi, quand je suis en Espagne, là, actuellement, ils sont en train de leur changer la façon de vivre aussi. Parce qu'eux aussi sont en train de changer de vivre. Eux, c'est des fêtards le soir. Ils mangent très tard et tout ce que vous voulez parce qu'ils fait plus chaud. Et on leur enlève ce système-là. On est en train de devenir une Europe mouton. C'est-à-dire, on devient tous pareils. Et on est en train de nous mettre tous au pas. Je ne suis pas complotiste, hein, mais quand vous y allez, vous êtes en train de le voir. Tout ça pour une maladie que nous, on devrait s'immuniser, nous-mêmes. Arrêtons maintenant les vaccins, arrêtons tout ça, c'est marre.
Alors, arrêtons les vaccins, je suis désolé, Diane, mais pour le coup, ça sauve des vies aussi. C'est important de le dire sur certaines personnes plus fragiles que d'autres, plus âgées, avec des comorbidités. Donc ça, c'est important quand même de le signaler. Je comprends certains scepticismes du côté ou inquiétudes du côté des vaccins, mais c'est important aussi de le rappeler que si ça ne protège pas complètement sur les contaminations, sur les formes graves, en tout cas, on a moins de cas graves grâce à la vaccination. C'est les chiffres sont là, il faut le dire. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On a entendu aussi votre colère. On va parler aussi, alors Jérôme Gavaudan, on est en ligne avec Thierry Dogneau, qui est président de l'UMI de l'Aude, je le disais. Hein, c'est l'Union des métiers, des industries, de l'hôtellerie. Bonjour Thierry Dogneau.
Bonjour Thierry Dogneau.
Bonjour.
Parce qu'on a vu l'aspect un petit peu juridique aussi avec Jérôme Gavaudan. Ça serait intéressant aussi de voir tout simplement avec vous, du côté des restaurateurs, du côté des bars, comment on appréhende un peu ce sujet-là avec cette annonce d'Olivier Véran. Donc, comment vous avez réagi justement à cette annonce? Comment on réagit du côté de la profession?
Alors, je vais vous dire, on est à Noël, hein, et donc la Haute est pleine, et là, on ne prendra pas la carte d'identité, c'est clair et net.
D'accord.
C'est pas notre métier. Déjà, on a le pass sanitaire pour les clients, on a le pass sanitaire pour les salariés, et en plus, on veut nous mettre la carte d'identité. C'est pas à nous de faire ce travail. Donc, pour nous, c'est clair, on prendra pas les cartes d'identité. Vous vous rendez compte ce que ça entraîne après derrière, avec les clients, de vérifier.
Ça prend du temps, ça peut provoquer des tensions aussi.
Bien sûr, ça prend du temps. Est-ce qu'on va avoir les bonnes cartes d'identité? Parce qu'on fraude sur les passes sanitaires, on peut frauder sur les cartes d'identité. Ouais. C'est pas possible. Moi, j'ai dit plutôt, tout le monde se vaccine et tout le monde sera tranquille.
Ça veut dire, ça, vous l'avez fait remonter, alors, je sais pas, au gouvernement, justement, le fait que alors, vous, du côté des restaurateurs, c'était niet sur le contrôle de l'identité?
Ah mais bien sûr, on l'a fait remonter au national. On a le national de l'UMI, voit le gouvernement toutes les semaines.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fera pas et qu'on ne peut pas faire. Et on n'est pas légitime à prendre les cartes d'identité. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, déjà, on avait quand même quelques restaurateurs récalcitrants qui ne voulaient pas prendre les passes sanitaires. Et là, maintenant... Il faudrait prendre les cartes d'identité, mais les gens, ils vont plus venir au restaurant. S'il faut venir avec le pass sanitaire, la carte d'identité, puis quoi encore après? Il faudra venir avec quoi? Non, 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 là, c'est pas possible.
Ce qui veut dire que sur l'argument, mais vous avez déjà en partie répondu, hein, Thierry Dogneau, mais pour préciser pour nos éditeurs de Sud Radio, c'est-à-dire que sur l'argument du gouvernement de dire, bah voilà, il y a trop de faux passes sanitaires en circulation, voilà, plus de 180 000 depuis le début, dans le cadre de 400 enquêtes, trop de faux passes sanitaires, c'est l'argument notamment utilisé pour cette question-là. Pour vous, vous ne l'entendez pas, du coup, cet argument. C'est ça, hein.
Ben, c'est pas ça. C'est que ben, le pass sanitaire, c'est vrai que il y a des fraudes avec ce pass sanitaire. Donc moi, je pense qu'il faudrait faire peut-être autrement pour éviter d'avoir des faux pass sanitaires.
Juste d'un mot pour conclure, Thierry Dogneau, sur l'autre annonce, ou en tout cas l'autre information aussi qu'on a prise, c'est le gouvernement qui a appelé, hein, les forces de l'ordre à renforcer leur contrôle dans les bars, dans les restaurants, sur le pass sanitaire, déjà depuis hier. Vous avez l'impression que ce gouvernement, il se défausse sur vous carrément, sur les restaurateurs?
Bien sûr, mais bon, après, qu'ils fassent des contrôles
par des policiers, des gendarmes.
Oui, mais ouais. Pour moi, on n'a pas de problème là-dessus, parce que la plupart des adhérents de l'UMI et tout ça, quoi, et tous même, on fait tous, ils font tous le contrôle, la plupart.
Ouais, ouais.
Hein, vraiment, on joue le jeu parce que on est là pour la sécurité de nos clients et pour notre sécurité à nous aussi. Donc, et si on veut que des clients viennent dans nos restaurants, il faut que nos lieux soient sécurisés. Donc, la préfecture, quoi, ou la police et tout ça, ils peuvent faire des contrôles, il n'y a aucun problème. Et au contraire, moi je suis plutôt partisan de ça.
On comprend. Jérôme Gavaudan, vous l'avez entendu justement, Thierry Dogneau, à l'instant, du côté des restaurateurs, en gros, contrôle d'identité, alors du côté de leur part, en tout cas, de la part des restaurateurs, des professionnels, c'est niet. Par contre, voilà, quoi, que les policiers et les gendarmes fassent leur travail.
Exactement. Voilà.
Ça reprend ce que vous disiez.
Il faut redire ici aussi, c'est que la loi, ouais, c'est la loi. Elle doit être respectée. Il faut la discuter devant le Conseil constitutionnel. Et par exemple, sur la question des fraudes, les Français devraient se poser la question quand même. Est-ce qu'il faut frauder dans cette matière-là? Je pense qu'il n'est pas sérieux de frauder. Et donc, on doit tenir bon sur les libertés. On doit aussi pouvoir dire et redire, et en tout cas, c'est la profession qui le porte, il ne faut pas frauder. Parce que frauder, c'est pas respecter la loi. On ne peut se défendre sur les libertés que si on respecte effectivement la démocratie. L'argument que nous avons, c'est de dire « conteste les dérives antidémocratiques, mais il faut respecter ce qui doit être respecté ». Voilà, c'est ce que je voudrais dire aux uns et aux autres.
Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite de bonnes fêtes,
un
joyeux
beaucoup.
Noël. Et puis également à vous, Thierry Dogneau, bon courage pour la suite.
Un
président de l'UMI de l'Aude, je le rappelle. Très bonne journée à vous.
Et on remercie Diane de Perpignan qui nous a appelé au 0826-300-300 pour réagir. Vous êtes bien sur Sud Radio, 9h32 dans un
instant. Oui. C'est Félix Mathieu qui va nous rejoindre pour en continuer de voir un petit peu les événements, les grosses dates, les événements qui ont marqué cette année 2021 avec une date, on va le dire, qui a chamboulé l'Église catholique en France. C'est le rapport Sauvé. On sera avec notre invité dans un instant pour voir ce que ça a changé. Est-ce que ça a impliqué un changement profond ou pas du côté de l'Église? Est-ce qu'il y a eu des changements sur ces questions, sur ces risques d'abus sexuels au sein de l'institution? On en parle dans un instant sur Sud Radio.
Et Jacques Pessis aussi, son invité, qui nous parlera de toute cette semaine, de leurs souvenirs de Noël. Et puis aussi
ça sera un peu plus léger,
chef,
ça vous fera du bien.
Exactement. Ouais. Et pour finir, on va se régaler avec un chef qui est à la laiterie à Lambessart, c'est Édouard Chouteau. A tout de suite sur Sud Radio, il est 9h33.